Radio Vostok, il est midi.
Midi bascule. Tous les vendredis, à midi.
Pourquoi on perd cette capacité en fait à se questionner, à réfléchir, à philosopher avec le temps ?
Bah, les enfants, effectivement, je crois, sont tous des petits philosophes. Et puis certains le demeurent, et puis d'autres perdent cette capacité d'émerveillement, de questionnement, parce qu'ils sont trop pris par les soucis de la vie, et puis la société apporte des réponses standardisées, toutes faites.
Il est 11h au Mali, l'un des pays de la planète qui respecte le moins les droits de l'enfant. Il est 20h au Japon, où certaines écoles maternelles recrutent sur concours. Et il est midi dans le studio de Radio Bascule, où sont uniquement présents actuellement des adultes. En tout cas, pour ce qui est des corps, les mentalités, je ne sais pas. Bonjour, la technique est assurée par Benos Rex et Léonard Blanc. En ouverture, on a entendu le philosophe Frédéric Lenoir interviewé par Julie Evard de la RTS pour le documentaire « Le cercle des petits philosophes ». Aujourd'hui, on va parler des jeunes, de la petite enfance à l'adolescence et de la place que la société leur donne. On s'intéresse à l'offre culturelle qui leur est proposée, notamment celle qui repense leur rapport au monde et les fait réfléchir. Lorsque ce public devient acteur de la création, il exerce non seulement sa capacité à penser, mais prête également attention aux grands oubliés de l'école, le corps, la rêverie, l'imaginaire, l'intime, et j'en passe. Où est-ce que cette génération nous emmène lorsqu'on lui laisse la liberté d'agir ? À une époque où cette tranche de la population demeure opprimée, un nouveau mot a vu le jour, enfantisme. Construit sur le modèle de féminisme, ce terme désigne les luttes en faveur des intérêts des enfants. Celles et ceux qui s'engagent dans ce mouvement proposent d'abolir le rapport de domination des adultes pour inventer une nouvelle réalité sur la base d'une relation horizontale. La théorie est belle. Mais concrètement, comment sensibiliser les enfants aux enjeux sociétaux ? Et comment mieux les inclure dans le débat ?
Midi bascule. Marie-Ève Musy.
Pour traiter de ces questions, nous recevons au plateau le directeur artistique et général du théâtre Amstramgram, Johan Montpart, bonjour.
Bonjour.
Quelle part d'enfance est restée en toi ?
Oh ben, c'est juste la relation au fait qu'on est tous des humains. Et au final, ben, les enfants et les adultes, on est des humains, donc c'est la relation la plus forte.
Nous recevrons en milieu d'émission une autre invitée, Fabiana Piacenza. Elle est chargée de médiation et des relations scolaires au service de la culture de Mérin. Autour de la table de l'équipe Midi Bascule se trouvent les espiègles Olivier Mota et José Lillo. Quel souvenir avez-vous de votre enfance, Olivier, qui dodine de la tête ?
Alors, des souvenirs, bah, comme beaucoup d'enfance, des souvenirs intenses, magnifiques, douloureux, désespérés. C'est un peu... C'est un melting pot. C'est un
désespéré
mélange. Ouais, bah,
mais... Qu'est-ce qui te rendait désespéré ?
Mais parce qu'on a, quand on est triste, quand on est gosse, et qu'on est triste, c'est une tristesse d'envergure cosmique. C'est quelque chose de terrible.
Toi aussi, José, tu étais déjà désespéré à ce moment-là ?
J'avais pas le mot, donc pas le concept, mais j'avais une sensation d'avoir été jeté dans le monde.
Waouh! Ah, c'est des souvenirs forts. Notre discussion sera agrémentée de musique choisie par nos invités et peut-être, qui sait, d'un extrait de télé-réalité. Mais pour cela, il faudra attendre la dernière partie de l'émission. Johan Montpart, tu diriges depuis 2021 le théâtre Amstramgram, centre international de création, partenaire de l'enfance et la jeunesse. Avant cela, tu as eu un riche parcours de comédien et de metteur en scène, tantôt pour des pièces destinées aux adultes, tantôt aux plus jeunes. Pour commencer, aurais-tu un souvenir d'une émotion forte que tu as éprouvée enfant à travers l'art ?
Oui. Ben, l'émotion la plus forte, ça a été celle des Correfox. C'est le carnaval catalan à Barcelone, en fait. C'est quand il y a plein... D'ailleurs, la troupe de Comedians, qui est une troupe très connue internationalement, en fait, s'inspire de ces carnavals-là. Et c'est des carnavals dans lesquels, en fait, on s'accroche des feux d'artifice voilà, à la queue du diable, et on court dans la foule. Et ça, tout en... Aussi le saut par-dessus le feu, à la Saint-Jean, c'est des souvenirs les plus forts, on va dire. C'est une relation à l'art, hein, vu que c'est rituel. Et c'est ça, un peu, le plus fort. La peur, l'envie d'être ensemble avec d'autres, le fait de se cacher, de courir encore, et puis d'allumer soi-même des pétards.
Ah, ça a l'air assez dingue, effectivement. Mm-hmm. Ton premier contact avec le jeune public a eu lieu quand tu étais comédien. Qu'est-ce qui change dans la relation entre la scène et la salle par rapport à une audience plus âgée ?
Alors, bah, moi, j'ai souvenir de... J'étais d'ailleurs à Amstramgram pour l'histoire du soldat. Et l'histoire du soldat, c'est donc que je jouais le Joseph Duprat, le soldat, qui à trois reprises, ayant vu qu'il a donné son âme au diable, il se pose la question, qu'est-ce que je vais faire ? Et il pose la question trois fois dans le texte de Ramu. Et j'ai senti que la première fois, quand je posais la question, bien, il y avait une sorte de frémissement dans la salle, ce que j'avais rarement senti, mais quand même un peu, avec du public adulte. La deuxième fois que j'ai posé la question, ils se sont concertés dans la salle, en scolaire. En scolaire, c'est-à-dire c'est une représentation où il n'y a que des enfants. Hein. Mm-hmm. L'air de dire, ils nous parlent. Là, ils nous parlent. Et à la troisième fois que j'ai posé la question, ils m'ont répondu très fort. Et ils m'ont dit, suicide-toi, rends le livre, vu que c'est le livre que j'ai reçu en remplacement du violon. Et c'est drôle parce que dernièrement, je parlais avec une grande créatrice italienne qui s'appelle Chiara Guidi, qui avait créé la Società Raffaello Zanzio. Elle me racontait, en parlant du jeune public, comme ça, du public enfant, que c'est un public qui nous ramène en fait aux origines du théâtre, au chaos originel, au chaos qui est donc celui de la Bacchanale. Et puis plus près de nous, aussi au théâtre élisabétain. Le théâtre élisabétain, au Globe, paraît-il, il y avait des gens du public qui venaient sur scène pour prendre la défense tantôt des Montagu, tantôt des Capulet. Ils dégainaient leur épée, ils buvaient. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dont je ne peux peut-être pas parler dans le théâtre à ce moment-là.
Sur scène
Non, alors ça c'était plutôt dans la salle. Mais on pouvait faire l'amour dans la salle. Hein. Il y a des écrits qui en attestent. Manger. C'est pas forcément pour ces deux aspects-là, mais plutôt pour celui de l'expression de la jeunesse, que je trouve qu'il faut un peu se rappeler que le fait de se taire, de devoir se taire dans une salle de spectacle, mmh. est somme toute assez moderne. Et que tout ça nous vient peut-être du 17e, d'un certain académisme, et puis d'une tradition somme toute très récente, mais qu'il faudrait peut-être laisser plus le public s'exprimer dans les salles.
Le laisser vivre. En 2010, tu crées le spectacle La Reine des Neiges. C'est ta première mise en scène. Les représentations ont lieu aussi au théâtre Amstramgram, qui était à l'époque dirigé par Dominique Caton.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer à la mise en scène ?
Je crois que, bon, on vient de le citer, Dominique Caton a vraiment créé avec Nathalie Natt un lieu unique. C'est une référence mondiale. Je le vois maintenant quand je voyage, etc. Et il a, moi j'ai l'impression d'un cœur qui bat à Amstramgram, un cœur qui bat pour la relation avec l'enfance et la jeunesse. C'est-à-dire que j'ai retrouvé des archives de la RTS où Dominique Caton a interviewé, avec d'ailleurs il y avait Charles Joris qui était aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas, un grand nom du théâtre, créateur du théâtre populaire roman. Il parlait de décolonisation générationnelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on dit « laisser l'expression », donner voix au chapitre à l'enfance et la jeunesse, leur permettre de participer aux discussions, en fait, pour un futur engageant. Dominique, déjà à cette époque-là, il parlait de décolonisation générationnelle, parentale, en citant Gérard Mandel, qui était un sociopsychologue, on va dire, sociopsychanalyste aussi. Et je trouve que depuis toujours, ça a été le rêve d'Amstramgram, rêve dans lequel on s'inscrit, on essaie de s'inscrire. Ben, c'est celui d'une relation renouvelée avec ces générations-là, et puis de pouvoir se dire, c'est des partenaires qualifiés, en fait. C'est des citoyens aussi, du monde et des états dans lesquels nous vivons. Et effectivement, comme tu le disais en intro, ben, peut-être qu'en les faisant participer, on pourrait voir le monde d'une très jolie manière.
Alors, absolument. Pour en revenir donc à cette pièce, elle était proposée par ta compagnie, la compagnie que tu as fondée, Youm Théâtre. C'était la première d'une longue série. On suivit Ventre au soleil, Munchausen, Mon chien Dieu et aussi des spectacles à destination des adultes. Quel est le credo de cette compagnie ?
Bah, mettre en doute. En fait, c'était donner voix au chapitre, par exemple pour les spectacles adultes, c'était donner voix au chapitre à celles et ceux qui en fait ne sont pas beaucoup entendus. Il y avait eu Dario Fo avec les personnes qui étaient précarisés, qui mentaient en fait, qui usaient de la désobéissance civile dans le Turin des années 70-80. Dario Fo aussi, Brecht, les plus précarisés des précarisés. Donc c'était de donner voix au chapitre par des œuvres d'art, en fait. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça fait réfléchir. Et puis, pour le théâtre jeune public, alors là, vraiment, c'était très clair, c'était une mise en doute. Est-ce que papa et maman disent vraiment la vérité? Est-ce qu'il faut vraiment aller à l'école à l'heure? Est-ce que c'est bien de se lever aussi tôt? Est-ce que c'est pas l'amitié en fait qui pourrait nous sauver? Est-ce que le quantitatif qui est proposé donc dans l'enseignement scolaire devrait pas un petit peu faire de place au qualitatif au-delà du travail des enseignants qui est quand même formidable, hein, c'est les héroïnes et les héros, je pense, de notre époque, mais donner cette sensation de doute, de pouvoir douter des générations qu'on pourrait appeler surplombantes, et aussi de tout un système de vie dans lequel ils s'inscrivent, alors que, comme tu disais tout à l'heure, peut-être qu'ils ont d'autres intuitions. Donc refaire la part belle à l'intuition et avoir confiance en soi. En fait, ça peut se résumer à avoir l'audace d'être soi. Quand on est petit.
Très bien. Je crois que j'ai pas assez douté enfant. En fait, si on doute pas enfant, on doute de toute façon plus tard. Donc autant commencer jeune finalement.
Oui, oui, il faut mettre en doute. Il faut mettre en doute et puis il faut mettre en doute de manière communautaire. Là, je reviens de Marseille où j'ai travaillé dans un groupe qui s'appelle Marseille Ville Informée sur le Trauma, où on est appelé à Amstramram en fait pour les implémentations dans les écoles. Et puis j'ai entendu parler par exemple d'enfants médiateurs dans les écoles pour régler les conflits. C'est-à-dire de responsabiliser en fait les enfants à propos des sujets qui les concernent. Ça ne veut pas dire la dictature des enfants et des adolescents, hein, qu'on s'entende, mais c'est vraiment l'esprit du dialogue intergénérationnel qui permet en fait de se considérer voilà, comme une communauté de vie et de destin et de, bah, en fait de participer au dialogue quel que soit notre âge.
Et quelle est l'évolution par rapport à l'époque où toi, tu étais enfant? Ça, c'était possible ou pas du tout?
Alors, par rapport à l'époque où moi j'étais enfant, je pense que c'était moins possible. Et si ça l'était, ça l'était dans des cercles... Bon, ça fait longtemps, en fait, hein, qu'il y a des tentatives qui sont en termes de pédagogie, etc., qui sont proposées pour pouvoir, en fait, considérer l'enfant autrement ou lui permettre de vivre autrement. Mais la question, c'est celle du contexte et de l'attitude. Alors, le contexte est toujours posé par l'adulte. Donc pourquoi est-ce qu'on ne réfléchirait pas justement de manière communautaire avec ces générations-là à voir qu'est-ce qu'on met comme contexte quoi, pour certaines situations, pour l'école. Nous, on fait des agora, par exemple, à Amstramgram. Bon, bah, les agora, c'est des moments où sur tout un week-end, on peut réfléchir à une thématique et c'est en partie les adultes, fortement même les adultes, hein, faut bien le dire, qui mettons en place les jeux, les spectacles qui sont programmés. Mais il y a toute une partie, en fait, qui sont gérées par les enfants. Et c'est assez brillant, il faut le dire. Et c'est aussi assez agréable de ne pas être tout le temps dans cette relation de juste responsabilité surplombante quand on est un adulte et qu'on voit un enfant.
Et donc, les enfants sont considérés comme des partenaires qualifiés pour le débat dans ces agora.
Oui.
Mais comment être certain qu'ils ont une pensée indépendante et qu'ils ne pensent pas simplement comme leurs parents?
Alors, il faut probablement... là, c'est là où intervient une notion... primordial, c'est celle du temps. Il faut prendre le temps. Il faut se mettre en pause par rapport aux manières de réfléchir et laisser un espace de silence qui peut inviter en fait à une réflexion différente. Alors après, il y a plein de méthodologies. Hein. On a fait par exemple des dialogues philosophiques qui étaient très très bien menés par l'association Improphilo. C'est vraiment des experts de comment pourrait-on dire de l'incitation à parler. Et quand ils sont venus chez nous, ou quand on va dans les écoles aussi, bah en fait, ils incitent à parler de manière horizontale. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on a le droit de plus parler qu'un enfant, par exemple. Et puis, ce que disent les enfants ou les adultes ont pratiquement la même valeur. Et je pense que c'est ça qui peut peut-être changer, c'est que par rapport à mon époque, déjà, moi, je pense que je pouvais moins. Si je le pouvais, c'était sous les conditions d'un adulte. Et aujourd'hui, ces conditions-là, elles peuvent être réfléchies en commun, intergénérationnellement.
Tu nous proposes d'écouter une jeune artiste nommée Loum. On va diffuser son titre « Les bad bitch pleurent ». Qu'est-ce qui t'émeut chez elle?
Alors, je ne vais pas le cacher. C'est toute une génération déjà qui m'émeut. C'est une qualité de voix qui m'émeut. mais si je ne le disais pas, je ne me sentirais pas très honnête. Je la connais personnellement et elle est de ma famille, c'est ma fille.
Et elle a 22 ans.
Oui.
Les bad bitches pleurent, mais pas pour toi. Tu ne mérites pas que je pleure pour toi. Les bad bitches pleurent, mais pas comme ça. Tu ne mérites pas mon attitude. Alors non, je pleure pas.
Vous êtes dans Midi Bascule et nous aussi. Toujours à l'affût des évolutions culturelles en cours, on s'intéresse aux jeunes publics, créateurs du monde du demain. Et dans l'immédiat, on regarde ce qu'il se passe dans le monde d'aujourd'hui avec le regard aiguisé de José Lillo.
Salut à toi qui es né quelque part et qui n'en est pas pour autant devenu imbécilement heureux. Pathologie qui s'attrape au contact prolongé d'un drapeau, allant même jusqu'à provoquer à l'âge adulte une morbidité de la crispation identitaire, dite dans le jargon de clinique des troubles anxieux, une finkielkraut, pouvant entraîner la dissolution de l'empathie humaine et de toutes ces petites choses autour desquelles on s'agitait tant autrefois, surtout dans l'après 45. Mais trêve de radotage, le comité éditorial de Midi Bascule m'a cette semaine passé commande d'une chronique sur la situation des enfants dans le monde, à laquelle, inconscient que je suis, j'ai répondu favorablement. Je leur ai dit « Oula, mais ça risque de plomber l'ambiance, cette affaire !» À quoi il m'a été répondu, avec le sérieux de circonstances, « On sait !» Mais, José, depuis quand as-tu eu des réticences pour plomber l'ambiance ? À quoi j'ai répondu, sincère et contrit, « C'est vrai !» Mais n'allez pas croire que j'y trouve un quelconque plaisir. Si la concorde et l'amour régnaient sur la planète, ou même rien que sur la francophonie, croyez bien que je me consacrerais ici à livrer des calembours follement divertissants tels Midi Bascule, oui, mais Midi Bouscule. C'est frais, c'est
frais. Oh là là, on le retient celui-là.
C'est
alors.
Souriant, oui, on en redemande. Bon, allez.
Pour une fois qu'il fait une blague.
Mais j'en fais plein, mais elles sont bref. Allez, l'enfance dans le monde en 2024. Alors déjà, passons sur ce que tout le monde sait, c'est-à-dire qu'ils sont destinés à vivre sur une planète de plus en plus inhabitable et qu'ils assisteront à l'extinction d'un nombre considérable d'espèces vivantes, végétales et animales, telles l'éléphant, le tigre, le rhinocéros, la panthère des neiges. Bon, j'arrête, la liste est trop longue et dépasserait le temps imparti de cette chronique. Les enfants des sociétés prospères de 2024, il leur restera toujours le souvenir de leur peluche animalière pour se consoler de l'avenir et le souvenir de séries animées Netflix où les rôles principaux sont tenus par de sympathiques animaux anthropomorphisés dans les aventures trépidantes où la mort est absente afin de ne pas les effrayer selon nos normes civilisées de censure. Il est vrai que ces programmes ne sont pas prioritairement destinés aux enfants de Gaza, à qui il n'est d'ailleurs rien destiné, si ce n'est manifestement de mourir sous l'assaut fanatique du pays voisin, qui a décidément bien du mal à distinguer les combattants du Hamas d'une montagne de cadavres d'enfants. Mais passons rapidement là-dessus, comme il est d'usage dans la société de l'information contemporaine, qui peut pourtant tenir deux semaines sur « pour ou contre Sardou » et autres niaiseries de diversion. Bref, le fait que les enfants vivront de plus en plus dans un monde de merde, au propre et au figuré, c'est le futur. Et le futur, c'est pas le sujet. Non, le futur, c'est déprimant, alors le sujet, c'est le présent. Moins déprimant que le futur, supposément. C'est toujours ça de prix. Et qui de mieux que l'UNICEF pour nous éclairer sur la situation de l'enfance dans le monde d'aujourd'hui. Et là, navré, mais on est tout de suite dans le haut de gamme de l'épouvante. L'année 2023 a été une année noire pour les enfants, prévient l'UNICEF. De Haïti au Soudan, du Yémen à l'Ukraine, de l'Afghanistan au Proche-Orient, les enfants du monde entier ont subi des violations de leurs droits les plus fondamentaux qui n'ont jamais été si menacés. 460 millions d'enfants vivent dans des zones aux crises majeures. Survivre y est devenu un véritable défi. Dans la Corne de l'Afrique, la menace de la famine plane constamment sur les enfants. En République démocratique du Congo, 15 millions d'enfants subissent de plein fouet la guerre, les flambées épidémiques et les violences sexuelles endémiques, sans compter l'enrôlement dans des groupes armés. À Haïti, le système de santé s'est effondré. Les fournitures essentielles à la survie des enfants sont pillées par des groupes armés. La bande de Gaza a été déclarée l'endroit le plus dangereux au monde pour les enfants. En Syrie, plus de 7 millions d'enfants ont besoin d'aide humanitaire. 650 000 enfants de moins de 5 ans y souffrent de malnutrition chronique. Plus de 30% des enfants sont en état de détresse psychosociale. Là où les tremblements de terre ont frappé, 83% des enfants présentent une détresse psychologique comportementale. 43,3 millions d'enfants dans le monde sont en situation de déplacement forcé. Partout, les enfants sont les premières victimes victimes des crises et conflits, qu'elles soient politiques, climatiques, humanitaires, économiques, sanitaires ou alimentaires, en dépit des engagements des États à respecter leurs droits, alerte l'UNICEF. Ils sont également les premières victimes de la stagnation des progrès en matière de réduction de la pauvreté. À l'échelle mondiale, plus de la moitié des personnes vivant dans une extrême pauvreté sont des enfants. Pendant ce temps-là, chez les bien lotis, dans les pays industrialisés, on surexpose les enfants aux écrans, au cyberharcèlement, à la cyberdépendance, à la désinformation, aux contenus violents et aux fake news. Voilà, c'était un rapide survol de la situation des enfants dans le monde. Arrivé à la fin de ma chronique, j'ai juste envie de réentendre un refrain d'autrefois. « Cours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger !» Voilà.
Merci José pour ce triste état des lieux. En prime, on a eu droit au générique de Goldorak. Tu regardais cette série dans ta
oui,
jeunesse?
Oui, j'ai regardé, je me suis même racheté le coffret là.
Oh.
J'ai regardé, figurez-vous. Ouais.
Joanne, mon père, n'est-ce pas de la folie de faire des enfants à l'heure actuelle?
Oui, probablement. Mais quand j'écoutais José, je repensais à ce petit ouvrage qui vient de sortir d'Edgar Morin qui s'appelle « Réveillons-nous ». Et c'est un ouvrage terrible parce qu'il applique le fonctionnement du U, donc on conscientise des choses. Après, on passe par un moment très déprimant. Et puis, sur la fin, on essaie de voir des voies, parce qu'il faut quand même se mettre en action, non? Sinon, on s'enterrerait vivant, quoi. Et à la fin de l'ouvrage, Edgar Morin parle de trois sources d'espérance. Alors, je vais en citer deux, puis comme ça, je force les gens à aller lire le livre. Mais la première, c'est l'improbable. L'improbable. C'est-à-dire que... Il donne des exemples, comme par exemple à la fin de la dictature de Franco, il y a une délégation du pouvoir au roi d'Espagne, qui n'est pas quelqu'un de très recommandable, soit dit en passant, mais il a quand même installé une démocratie. Défectueuse, défaillante, pleine de défauts, mais il a installé une démocratie, l'improbable. Et la deuxième, c'est l'obsolescence du système. C'est-à-dire que tout système ne peut pas durer. Donc, du fait de son obsolescence, on peut espérer qu'on va passer à autre chose. Alors, on ne connaît pas les délais, mais au moins, c'est des sources d'espérance.
Merci pour ces deux sources. Et puis, quel teasing! On a envie de connaître.
Bah oui, la troisième,
il
faut aller lire le livre pour savoir.
Très bien. On va s'intéresser, en parlant de passage à l'acte, à l'action, on va s'intéresser à ce qu'il se passe du côté de Mérin. Le service de la culture de la ville traverse une période de restructuration avec un projet qui court de 2023 à 2026. Des postes de médiation ont notamment été créés avec une volonté de se diriger davantage vers le jeune public. L'invité qu'on reçoit est chargé de médiation et responsable des relations scolaires, Fabiana Piacenza. Bonjour.
Bonjour, bonjour Marie-Ève.
Pour commencer, je te pose la même question qu'à mon invité en plateau. Quelle a été l'une de tes premières émotions artistiques enfant?
Alors, pour moi, ça n'a pas forcément été un spectacle, c'était plutôt une mise en pratique. C'est-à-dire que j'étudiais en tant que comédienne, adolescente, dans une MJC française, une maison de la jeunesse et de la culture. Et puis, la prof d'espagnol montait une pièce de Molière et il lui manquait un petit personnage. Et donc, ils sont venus me chercher et j'ai joué. J'ai joué un petit personnage de Molière. Et être dans la grande salle de la cantine, regardée par tous mes camarades, ça m'avait procuré beaucoup d'émotions. Et j'en ai gardé un très bon souvenir. J'ai beaucoup aimé ça.
Et déjà, à ce moment-là, oui. tu étais dans l'action.
Voilà, c'était déjà de l'action. Donc, effectivement, je pense que y a deux moyens. Ou vous avez un spectacle qui, d'un seul coup, vous émeut au point que ben, vous adorez le théâtre. Mais il y a aussi le faire. Je pense qu'il faut aussi donner la possibilité aux enfants de se confronter à l'exercice théâtral, à la construction d'un processus créatif à plusieurs, de devoir après montrer à d'autres gens. Je trouve que c'est très formateur.
Justement, alors, quelles activités de médiation le service de la culture de Mérin propose-t-il aux jeunes publics?
Alors, moi, je travaille beaucoup avec les scolaires. Donc, pour l'instant, on associe des ateliers de médiation en relation avec les spectacles qu'on reçoit. Donc, pour te donner un exemple, on a reçu un spectacle qui s'appelait Petite Géométrie, qui était un spectacle avec des comédiennes qui avaient des boîtes sur la tête. Elles ne parlaient pas. C'était pour les tout petits. Et elles communiquaient en dessinant à la craie sur les boîtes. Et de là, on a mis en place pour les 1P, 2P, une activité qui s'appelle la trace d'un geste avant l'écriture. Donc en fait, on associe le spectacle aussi aux demandes pédagogiques du système scolaire, du DIP. Et donc les enfants ont été amenés à tenter la trace d'un geste avec de la peinture et après à choisir dans cette grande fresque, parce que l'art est-il de fait ou est-il le regard qu'on pose sur son objet d'art? Donc tout était la question. Ils ont choisi dans cette grande fresque ce qui leur parlait de façon assez abstraite et ça a donné des très très beaux dessins.
Et d'autre part, il me semble que tu prépares également les classes à voir des spectacles. Tu m'as dit pour éviter, je cite, des foulures mentales. Qu'est-ce que tu entends par là?
C'est ça. Alors, des foulures mentales, c'est-à-dire que des fois, quand on va voir un spectacle, on s'attend à quelque chose d'autre. Donc, par exemple, là, on a accueilli Twist de la compagnie Diane Duvendac et on dit aux enfants qu'ils vont aller au théâtre. Donc, moi, j'essaye d'éviter les clichés, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas dans une attente de quelque chose et qu'en fait, on leur propose autre chose. Et donc, ce décalage empêche en fait la possibilité de bien accueillir l'œuvre d'art. Donc par exemple, Twist, ce n'est pas un Molière, ce n'est pas un Shakespeare, c'est un jeu. C'est un jeu où ils doivent reconstituer la pièce de théâtre. Et pour pas qu'ils soient pris au dépourvu, eh bien je passe dans les classes et puis on les met au courant. On les met au courant, on leur dit... sans expliciter trop pour leur laisser quand même le plaisir de découvrir l'œuvre artistique, mais on essaye de les initier à ce qu'ils vont voir pour leur permettre une meilleure accessibilité.
Est-ce que selon toi, on ne prend pas assez au sérieux les enfants?
Oui, je crois.
Par rapport à leurs besoins, par exemple, tu me disais qu'ils n'avaient pas exactement les mêmes besoins que nous. Est-ce qu'il faudrait qu'on leur laisse plus de place?
Je pense qu'il faudrait leur laisser plus de place. Je ne sais pas dans quel sens au niveau du spectacle. Mais par exemple, dans les scolaires, il y a encore toujours cet esprit de collectivité qui ne ressemble pas vraiment à ce qu'on fait quand on va au théâtre quand on est adulte. Par exemple, vous allez au théâtre, vous allez boire un verre au bar avant, il y a peut-être une musique d'ambiance, vous asseyez avec des amis, vous mangez une petite tartine, et puis après vous rentrez au spectacle. Et tout ce protocole-là dans les scolaires, il n'existe pas. Ils rentrent très rapidement, ils voient le spectacle, ils ressortent. Et ce protocole-là, j'aimerais beaucoup l'instaurer pour que, en fait... c'est très intéressant pour par exemple quand le secondaire 2 vient le soir au spectacle. Parce que là, on a vraiment l'ambiance du théâtre, les spectateurs, l'ambiance d'avant. Et puis après, on rentre en salle et on voit l'œuvre d'art. Et reconstituer ce climat-là pour les scolaires, ça pourrait être intéressant, on y réfléchit encore.
Ok, très bien. Tu nous proposes d'écouter un morceau de Sophie Unger. Qu'est-ce qui te touche chez cet artiste?
Il y a quelque chose d'un peu chauvin. Je trouve qu'on a des super artistes en Suisse et que elle est absolument incroyable. Je ne saurais pas, c'est un feeling d'expliquer plus que ça, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et puis j'avais envie de la mettre en avant.
Donc, alors on a choisi son titre Walter für Niemand. Est-ce que tu le connais?
Oui, très bien.
Est-ce qu'on a bien choisi?
Oui, vous avez parfaitement bien choisi.
Donc,
j'aime tout.
Donc en français, ça veut dire « valse pour personne », une chanson qui parle d'un désir de connexion au milieu d'une grande solitude.
Niemand, ich habe Geschenke für dich, was wär ich geworden, gäbe es dich nicht, meine gesammelten Werke. Bitte sehr, alles gehört.
Bascule. Marie-Ève Musy.
Nous sommes à la moitié de l'émission. J'espère que votre vendredi se passe aussi bien que le nôtre. Bon appétit si vous êtes en train de manger. Ici, on parle de l'offre culturelle qui fait réfléchir les enfants et les ados. Faisons suite quelques minutes à l'échange téléphonique qu'on a eu avant la musique. Olivier, tu voulais rebondir sur la fluure mentale.
Oui, cette expression que Fabiana Piacenza a utilisée tout à l'heure, c'est une belle expression. Comme je suis un peu une tête de bouc, j'aurais juste envie de nuancer en disant que il faut pas forcément vouloir tout aplanir, ruminer le spectacle à l'avance et fournir un produit facile d'accès et prédigéré aux enfants, parce que il y a, à mon avis, dans la surprise, dans l'inconfort, dans le malaise, il y a aussi des vertus pédagogiques et ça peut amener le public à être beaucoup plus actif pendant la représentation s'il ressent ce genre d'émotion.
Voilà. Joanne Mompard, tu es d'accord avec ça?
Oui, bah d'ailleurs la première de Twist au théâtre Amstram Gram qu'on a coproduit, ça a été l'horreur pour Yann. C'était l'horreur parce que c'était son on lui a fait l'invitation de travailler pour le jeune public et la première scolaire en fait, ils ont pratiquement détruit son décor.
Parce que c'était une première fois pour du jeune public.
Oui. Okay. Oui. Et puis après, il a été formidable. C'est là où on voit que c'est un grand artiste. C'est-à-dire qu'il s'est mis en réflexion avec son équipe. Il n'a pas arrêté de modifier son objet artistique pour trouver la bonne relation. Et il est vraiment... Enfin, moi, j'ai trouvé ça admirable. Et sinon, ben, sur la prépa, c'est vrai qu'on a eu le cas de Chiara Guidi, que je citais tout à l'heure, avec un spectacle qui s'appelle Fable japonaise, dans lequel elle ne voulait aucune préparation. Aucune préparation. Faut penser que c'est quelqu'un d'assez radical. Et ce qui se passe, c'est que pendant qu'elle accueille les enfants dans le foyer, il y a un acteur qu'on n'identifie pas qui lui donne une boîte. Et elle est obligée d'accepter la boîte. Mais les enfants ne savent pas que la personne est dans le spectacle. Mais elle force, ce gars force Chiara à prendre la boîte. Donc, comme elle doit avancer, elle prend la boîte, les portes du théâtre s'ouvrent et on rentre dans la salle. Et une fois dans la salle, elle pose la boîte sur le bord du plateau, puis elle commence le spectacle. Et là, c'est impossible. Les enfants, il faut vraiment avoir cette image qu'on a parfois avec le guignol. Vous savez, quand il y a le loup qui passe derrière le gendarme, et les enfants le voient. Et le spectacle ne peut pas continuer si le gendarme ne voit pas le loup. Et bien là, c'était pareil. Elle commence, avec son très très bel accent italien, elle commence le spectacle et les enfants se sont mis à crier. Mais à crier à un niveau de décibels que je ne peux même pas vous raconter. Il y avait trois adultes dans la salle, ils étaient obligés de se boucher les oreilles avec les mains. Ils avaient une tête de frayeur. Et les enfants, en fait, ont eu cette incidence, un peu comme dans le théâtre élisabétain que je citais tout à l'heure, d'arrêter le spectacle pour demander à Chiara de, s'il te plaît, ouvre la boîte. Et elle est magnifique parce qu'évidemment, elle a ouvert la boîte où il n'y avait rien et où il y avait de l'espace. Elle a posé la question « Ah, alors c'est quoi la différence entre le rien et l'espace ?» Et là, c'est parti pour un moment de philosophie où toute la salle s'est reconcentrée, remobilisée autour de ce qui était échangé, l'espace et le rien. Et c'est là où on voit parfois le côté extraordinaire de l'enjeu avec le jeune public. C'est un endroit pour l'artiste qui est juste formidable.
Merci beaucoup pour cette anecdote. Mmh. Moi, c'est bon, je suis partie ailleurs, là. Et il est temps d'avoir l'avis de notre chroniqueur sur le thème du jour. Olivier, toi qui es père de trois garçons, j'imagine que l'initiation à l'art est un sujet qui te parle, non ?
Absolument. Moi, j'initie volontiers, j'explique, je guide, j'éclaire, je corromps n'importe quel enfant, en commençant par les miens. Aucun souci. Et je crois qu'on devrait initier et surtout faire participer les gosses à tout plein de choses et pas seulement à la culture, loin de là.
À quoi, par exemple ?
Ben, je pense qu'il faut commencer très jeune, quand le sujet est encore un nourrisson malléable, afin de pouvoir le modeler bien comme il faut et d'en faire un parfait citoyen de demain, inclusif, nombriliste, pacifiste, écolo et super indigné par principe. Pour cela, dès que le lardon est en âge de grailler autre chose que du lait, on peut commencer le dressage. Enfin, je veux dire, on peut instaurer une chier d'action, de médiation et de participation, histoire de compromettre dès le début la future sociabilité du petit con. On commence donc par la bouffe et on se répète l'évangile suivant. Je pratique une éducation bienveillante. Je suis au service du fruit de mes entrailles. Je m'attache à en développer le potentiel immense. Je ne fais preuve d'aucune autorité. Et je ne vais donc pas me casser les roubignoles à imposer à mon gosse des menus et à lui apprendre à manger sans redécorer la cuisine façon Valérie D'Amido avec de la purée de carottes à la place de peinture fuchsia. C'est pourquoi Junior choisira lui-même ses repas, même s'il ne sait que baver et ne parle pas encore. En plus, on lui laissera tout loisir de consommer sa pitance où, quand et comment il le désire. Pareille approche n'a que des avantages.
J'ose à peine demander lesquels.
Pour aller vite, j'en citerai deux. Alors, on sait que les morveux ont la fâcheuse habitude de laisser traîner leurs doigts potelés partout, y compris dans les prises électriques.
Ah voilà.
Or, si... au plus fort de la préparation participative de son dîner, Junior s'est loupé en introduisant une carotte et une main dans le mixeur, le voici manchot, ou presque. Et c'est parfait, car votre bambin amputé d'une main fera moitié moins de conneries, pas de main, pas de bêtises, c'est logique. Autre avantage, en particulier si vous êtes des parents peu hospitaliers, tout repas en freestyle de votre enfant transformant la cuisine en annexe de la bande de Gaza, vos amis détesteront venir manger chez vous et vous foutront une paix royale.
Alors quoi, l'éducation à la baguette c'est mieux ? La verticalité, l'autoritarisme, les sévices corporels.
Oh, les vilains mots que voilà, tu caricatures ma position. J'entends au contraire que les enfants participent à et se prononcent sur tout ce qui les concerne. En vertu de quoi un vulgaire pédiatre et des parents flippés décideraient-ils du traitement d'un enfant malade ? Pourquoi priver nos petits de la joie de posséder un iPhone dès qu'ils le désirent ? En vertu de quoi les programmes scolaires prétendent-ils transmettre des connaissances qui n'ont même pas été validées par les mômes ? C'est complètement fasciste ! Junior a le droit de refuser les piqûres et de se soigner à coups de fraise tagada. Il a le droit de scroller et de swiper dès les langes. Il a le droit de contribuer au choix des matières enseignées à l'école, non mais...
Oh, tu pousses le bouchon un peu loin quand même.
Ah, non. Faire participer les enfants et au final les laisser se gouverner eux-mêmes, c'est juste la base, la promesse d'un monde où couleront le lait et le miel dans la concorde de l'amour universel. Il n'y a qu'à lire Sa Majesté des Mouches ou le dernier Liu Cixin, traduit en français l'ère de la supernova, pour le constater. Quand les enfants sont aux affaires, ça ne peut déboucher que sur un pays de cocagne, un paradis sur terre. Tant les gosses sont naturellement bons, mesurés, rationnels et partageurs. Comment tout cela pourrait-il finir en carnage, hein ? Je vous le demande. Bon, il y a juste un hic, tôt ou tard, en grandissant, le minot remarque que le réel ne se plie pas toujours à son désir. Arrivé à ce stade, il lui reste une échappatoire, devenir un adolescent de ce mot-valise qui amalgame ado et adulte. Si le réel ne lui convient pas, il est toujours possible de le congédier et de macérer dans le plus complet narcissisme. Cet « on ne peut plus mériter », après tout, même, prenons un exemple au hasard, même Jason, le tanguy de votre collègue de bureau, même Jason, 32 ans, passionné par les mangas et le cosplay, glandeur, nourri, logé, blanchi par ses darons, même lui a une excuse imparable. Il est HPI, bien sûr. Alors, qu'on lui lâche la grappe et qu'il continue à participer à la co-construction de son déclassement social et de sa désinsertion professionnelle, parce que, comme le dit la pub, il le vaut bien.
Merci Olivier pour ce billet d'humeur.
Avec joie.
Joanne Montpart, que faire des potentielles dérives de l'horizontalité ?
Ah mais c'est génial d'entendre ce texte, ça fait tellement de bien. Parce qu'effectivement c'est qu'une affaire de tension entre des directions qui parfois sont opposées. Et puis, je crois que, je sais pas, mais c'est vraiment... D'ailleurs, l'humour, ça fait énormément de bien dans ce cas-là, parce qu'on ne peut pas être dogmatique. Il faut se réinventer tout le temps. Et puis, il y a des fois où on aura tort. On a fait des trucs, mais Amstramgram, parfois, mais vraiment ratés. On s'est ramassé sur des trucs dont je ne peux pas parler là, parce que ça implique aussi d'autres personnes, complètement ratés. Et puis, on apprend, on se relève, on essaie de faire mieux, et puis voilà.
José, tu as aussi une fille, on n'a que des papas autour de la table. Où te places-tu dans tout cela ? Tu es pour ?
Comme son papa. Non, mais il faut faire avec, ça veut dire avec, pour le bien.
Après, tu en es où dans l'autorité, par exemple ? Tu fais avec beaucoup d'autorité,
c'est nécessaire,
un petit peu.
Les voitures, je sais pas qu'il y ait d'accident ou je sais pas quoi, ou les choses qui peuvent la mettre en danger, il faut de l'autorité. Parce que le réel, ça cogne, comme disait l'autre. Voilà, après, il y a des choses qui dépendraient de mes goûts, ça m'est égal si elle préfère comme si qu'elle le fasse comme ça, quoi. Voilà, c'est, mais c'est en effet, c'est comme dit Ivan, c'est une invention permanente et c'est du présent qui demande de voilà, inventer la bonne réaction. Et c'est ça qui est difficile, parce qu'il n'y a pas de théorie toute faite qui marcherait dans tous les cas, quoi. Voilà.
Il y a Big Flo et Oli, ils ont une très belle. C'est d'ailleurs ma fille qui m'a fait écouter ce morceau. Une chanson de Big Flo et Oli qui dit: il n'y a pas de bons parents, il n'y a que des gens qui essaient de faire de leur mieux.
Merci. On va garder ça. Et en parlant de ta fille, on va écouter un deuxième titre d'elle. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur Reggaeton?
Ah, bah, c'est drôle parce que c'est un morceau. Au début, je trouvais qu'elle avait des morceaux avec des textes extrêmement. Voilà, très beau, avec une certaine militance. Et celui-ci, je me suis dit, ah bon, d'accord, bon, c'est plus mainstream. Et en fait, ben, j'ai fini par l'aimer beaucoup.
C'est un featuring entre Loom et Jimmy Capdevila. Écoutez Midi Bascule, on entame la dernière partie de l'émission. Aujourd'hui, on s'intéresse à la jeune génération et à l'offre culturelle qui lui est proposée pour repenser sa place dans le monde et sa relation aux adultes. Depuis le début de l'heure, Johan Montpart, le directeur du théâtre Amstramgram, est avec nous. Alors, on n'a pas encore parlé du programme de ton institution, partenaire de l'enfance et la jeunesse. Tout d'abord, tu as repris les commandes de ce lieu en juillet 2021 avec un projet intitulé « Demain ». C'est grâce à lui que tu as obtenu le poste. Quelles sont ces grandes lignes? En partie.
Oui, bah, les grandes lignes, déjà, c'est que, bon, aujourd'hui, par exemple, dans l'écologie, on a beaucoup de personnes qui disent, bon, bah, il faut se réunir en petite communauté et puis réfléchir en circuit court. Et puis comme ça, c'est vraiment des moyens d'action et des initiatives qui peuvent être plus, comment dire, plus concrètes. Que de s'attaquer globalement à tous les problèmes. Bah, une salle de spectacle, c'est ça. Hein. C'est une petite communauté qui réfléchit en même temps. Alors, c'est quand même assez précieux. Donc, à partir de là, on a créé un système d'agora. J'en ai parlé un tout petit peu, mais c'est quand même très vertueux parce que, du coup, c'est vraiment un déploiement de... On appelle ça du dialogue augmenté. C'est dans concentré de dialogue. Et puis, il y a un dialogue intergénérationnel. Alors, des thématiques qu'on a eues jusqu'ici, ça a été l'eau, l'alimentation... Le climat, l'expression des filles. Sur l'expression des filles, c'était une étude d'Isabelle Collet de l'Université de Genève qui avait remarqué que l'expression des filles en crèche, à l'école, à l'université, n'était pas du tout considérée de la même manière que celle des garçons. Par exemple, à l'université, l'expression des étudiantes, c'était plus pour confirmer le cours, alors que l'expression des garçons, c'était pour développer le cours. Donc on a fait une agora là-dessus qui s'appelait « Et les filles ?» point d'interrogation, point d'exclamation. Après, on a fait une sur les transidentités aussi, en collaboration avec Alex Scapetici du Refuge à Genève. Et à chaque fois, ben, c'est un projet, on va dire, qui est un projet artistique certes, mais de société. Et je vis dans une certaine schizophrénie, on va dire, parce qu'en même temps, on a notre première mission qui est celle de proposer des spectacles. Alors là, on vient d'accueillir Martin Zimmermann avec un spectacle somptueux. Il y a Marjolaine Minot qui est en train de jouer en ce moment. C'est vraiment des spectacles, on va dire, entre guillemets, des fois sous une forme plus traditionnelle. Et ensuite, on a tout ce qui est la veine de pas tant artistique que ça. Les agora, ben, finalement, oui, il y a des spectacles dedans, mais c'est pas super artistique. C'est du dialogue, c'est de la mise en relation, c'est de la vie en commun. Et puis après, ben, y a ce phénomène que c'est mis en partage avec les jeunes générations. Donc, demain, c'est peut-être pas un si bon titre, d'ailleurs.
Ah, si tu devais le choisir aujourd'hui, tu
Non, parce qu'on me dit souvent, Johan, vous avez le public de demain. Et je réponds, mais pas du tout. J'ai le public d'aujourd'hui et de demain. Contrairement à toi, qui est le public d'aujourd'hui, mais pas de demain. Parce qu'ils seront morts. Donc... l'idée, c'est vraiment de pouvoir considérer cette présence comme éclairante pour le monde d'aujourd'hui et de demain.
Et quand tu parles de présence éclairante, après les agora, vous transmettez des messages en ressortent. Et qu'est-ce que vous en faites ?
Alors, on a pensé, lorsqu'on voyait au Conseil fédéral, qu'il est obligé de nous répondre. Mais sinon...
Vous l'avez fait ou vous
alors,
allez...
Alors non, on ne l'a pas encore fait. Je dois l'avouer, c'est un projet, on ne l'a pas encore fait, on veut le faire depuis longtemps. Ils sont obligés de nous répondre, alors on verra ce qu'ils nous répondent. Mais non, ce qu'on fait, c'est que ça définit en fait les... Par exemple, il y a des sorties de laboratoire sur la thématique, etc. etc. Et puis du coup, ça définit la saison d'après. Ça définit en fait aussi les agoras qui viennent. Alors par exemple là, au mois de mai, on en fait une sur les amours, où il va y avoir un psychiatre de Marseille qui va parler de ses amours avec une personne Asperger. D'accord ? Eh bien, ça concerne l'amour, mais ça concerne la santé mentale. Et en fait, bon, il va le faire en collaboration avec sa famille, ses enfants, hein, pour que ce soit toujours intergénérationnel, etc. Eh bien, ça va donner lieu à probablement plus tard une agora, dans un an ou deux, sur la santé mentale.
En novembre dernier, vous avez présenté The Loft Theory, oui. Un projet d'un genre particulier. Il s'agit de théâtre documentaire et télé-réalité. Et qu'est-ce que c'est que ce genre hybride ?
Alors, juste en quelques mots, on a un contexte de création et une mode dans le théâtre jeune public qui est celui de la participation en fait, des ados. Alors, moi, je trouve ça super, vous l'avez remarqué. Mais il y a une telle explosion en fait, de participation que ça pose certaines questions. Qu'est-ce qu'on leur demande ? Alors parfois, il y a deux voies. Il y a celle du fonctionnement des maisons. Alors il y a beaucoup de comités de programmation qui sont faits intergénérationnels et c'est somme toute très bien. Moi, je me disais, bon, peut-être qu'il y a moyen de démocratiser en fait, ces inputs-là, ces avis-là, ces dans les maisons, et puis c'est pour ça qu'on a fait les agora. Mais en même temps, ça me posait la question fondamentale de qu'est-ce qu'on leur demande quand ils viennent. Et du coup, il y a une autre question qui s'est posée, c'est celle de l'habitabilité, vu que tu as dit le mot, je rebondis dessus, de l'institution. C'est une institution qui est à leur service, et pourtant, ils y viennent comme invités. Et s'ils l'habitaient ? Donc, Loft Theory, c'est l'autre veine de participation, c'est celle qui est plus artistique, c'est en fait vivre au théâtre. Alors, il y a eu une résidence, on n'a pas pu la faire au théâtre tout le temps parce que c'était impossible techniquement, mais où un groupe de jeunes conçus depuis 2021 sont allés vivre dans des appartements en ville de Genève, où ils ont parlé et ils ont mangé des pâtes. OK ? Et du coup, on a eu pour la création de ce Loft Theory, depuis l'expérience, leur expérience pendant la résidence, la forme du spectacle qui naît. Parce que souvent, il y a un grand metteur en scène, comme moi ou comme José, qui venons et qui disons aux jeunes, « Bon, ben, je t'ai écrit un texte, puis je t'ai fait un joli décor, puis tu vas te mettre là, non, plus à gauche, plus à droite. Voilà, là, t'es bien, l'adolescent. Super !» Tu vois ? Et là, le but, c'est que la forme du spectacle elle-même, elle est définie par l'expérience, en fait, en commun. Donc, ils ont mangé des pâtes et ils ont discuté entre eux. Eh bien, le spectacle, c'est un film dans lequel ils discutent et ils parlent, alors des différents sujets comme la santé mentale, en l'occurrence, l'amour.
On a un extrait, ouais. On va peut-être écouter. Donc, enfants et ados cohabitaient. Mm-hmm.
C'est un peu bizarre, j'ai un peu peur des ados. Parce qu'en fait, j'ai peur qu'ils m'agressent. Parce qu'une fois, j'ai vu des ados embêter un autre ado et ça m'a un peu fait peur. J'ai peur d'avoir des boutons d'acné.
Marteau.
Mais t'as touché.
C'est quoi déjà une carte?
Iglou.
Faut la poser. Si t'as le même, si t'as le même truc, faut
si
la poser.
T'as le même signe. Bonhomme, Zita. Bonhomme.
Voiture.
Mais arrête de tricher.
Zita. Zita, fais un effort. Arrête.
Mais je regarde, mais vous me perturbez, vous hurlez mon nom.
Arrête.
Deux, t'es en train de pousser.
En deuxième partie d'extrait, le groupe était en plein jeu de double. Les moments où tout le monde est réuni alternent avec des instants de confidence seuls.
Il y a genre un an, j'ai commencé à vraiment me dire, à réaliser que j'étais en train d'exister. C'est très bizarre. Donc en fait, je me disais, mais en fait là, t'es en train d'exister, c'est super bizarre. Et ça me faisait tourner la tête. Et vraiment, à un moment, j'avais la tête qui tournait et j'arrivais plus à réfléchir. C'est comme si tu prends conscience de ton existence, tu sais que ça n'a aucun sens. Et du coup, bah, ça me faisait tourner la tête, c'était très bizarre. Et j'ai eu ça pendant genre un mois. Je pensais souvent à ça et c'était, je sais pas, c'était très étrange.
On vient d'entendre Mafalda, je crois. Donc là, c'est la partie film.
Oui, alors il y a une partie film à laquelle on assiste. Alors c'est une partie où il s'exprime, par exemple, il y a une fille qui s'exprime sur son internement en fait dans un HP. c'est assez fort de voir comment ils décrivent les manières qu'ils ont de contourner en fait les outils de la psychiatrie parfois. Et on ne peut pas avoir ce témoignage-là de la part d'adultes. Il faut les gens qui empiriquement l'ont vécu, donc ces adolescents-là, qui nous parlent de nos outils en fait qu'on a construits de société, là en l'occurrence les outils de santé mentale, et qui en quelque sorte, c'est pas qu'ils en font une critique, mais ils parlent juste de leur expérience. Et il apparaît assez clairement, notamment au regard du film et du témoignage de cette jeune fille, que ça mérite à être réfléchi, un tout petit peu. En tout cas, depuis le point de vue de la patiente, en l'occurrence. Mmh. Donc, il y a ce premier temps qui est un temps de parole dans lequel le public assiste. Alors, c'est sous la forme d'un film. Et ensuite, il y a un deuxième temps dans lequel on arrive dans une salle où il y a des immenses tables et on fait des pâtes ensemble. Alors, c'est assez joli de voir toutes ces mains de toute génération, porter les pâtes qui vont finir jusque dans la casserole. Alors, elles passent à travers une machine à faire des pâtes. Et c'est un joli moment de communion. Et ensuite, il y a le moment du repas dans lequel on débriefe avec le public, mais ça fait aussi partie du spectacle parce qu'il y a des éléments spectaculaires dans le repas. Il y a un moment où, en fait, par exemple, il y a une fille qui s'exprime dans le film assez vertement sur les hommes. Hein, et du coup, moi, j'ai vu certains collègues, hommes, être tout petits à la table, se retrouver dans une situation où ils avaient entendu la jeune femme par rapport à ses appréhensions dans la relation, en fait, au masculin, et tout d'un coup, prendre tout à fait une autre manière, d'autres dispositions dans la relation. Donc, c'est un projet, on va dire, en même temps artistique, et je pense, mais humblement, dans le cadre de ce que c'est un théâtre, c'est un projet de transformation sociale. Il y a la résidence qui crée la forme, et ensuite dans la résidence il y a de la parole qui répare, cette parole est mise en commun, et en fait le public au final, il a accès à toute l'expérience par procuration, y compris celle de manger des pâtes physiquement, et je crois que ça rejoint ce qu'on appelle la catharsis au théâtre, en tout cas dans la définition que j'en ai. La catharsis, c'est plus de connaissances qui permet une certaine paix. La paix, elle démarre déjà depuis les intimes, et comme toujours au théâtre, on espère les artistes que c'est comme ça. Mais depuis ces petits territoires de paix ou intime, intérieur, en fait, ça donnera un chouïa, je dis ça du bout des lèvres parce que j'espère que c'est pas trop gonflé, mais que ça donnera un petit peu de paix sociale.
Donc, dans ce projet-là, il y a clairement de l'intergénérationnel, comme dans beaucoup d'autres projets que vous proposez. On n'a pas le temps de les détailler tous, mais tu donnes un atelier intergénérationnel de fantaisie dissidente. Ça, c'est ouvert à tout le monde ?
Oui, c'est ouvert. Là, il y a des gens qui sont de 14 ans jusqu'à 65 ans. Et puis, en fait, on se retrouve toutes les semaines, puis on se raconte ce qu'on a vu de fantaisie dissidente. Alors, il y a des gens qui racontent qu'ils ont une femme ouvrir un parapluie rose au milieu du marché de plein palais, puis se mettre à danser au milieu, puis tous les trucs un peu étranges, tous les trucs qui sortent un peu de la norme, etc. Et puis après, on a un système de déploiement, en fait, de la parole aussi. Alors, c'est très chouette de voir les ados cohabiter avec des gens de mon âge ou des gens même un petit peu plus âgés. C'est une très jolie petite communauté dans laquelle, en fait, on met en forme et en parole les rêves qu'on a. Et puis après, il y a une restitution qui est faite en fin de saison. Je tiens à citer juste Caroline Bernard pour le Loft Theory dont on a parlé, parce que c'est une artiste
absolument
formidable. Et Gaël Siller, qui est donc son co-créateur.
Merci beaucoup. Olivier, est-ce que tu es rallié à la cause ?
Je suis assez ébranlé, je dois dire, par la qualité des arguments de notre invité.
Ah, chouette.
En ce moment, au Théâtre Amstramgram, il y a un spectacle jusqu'à dimanche qui s'appelle « C'est beau et c'est pas grave ». Trois thèmes abordés en 15 secondes.
Alors, en 15 secondes, la relativité du temps et donc par extension de la vie, le voyage. Et je pense que s'il y avait un enfant de 4 ans comme un scientifique du CERN, je pense qu'ils y trouvent leur compte.
Merci beaucoup, Joanne Mompard, d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à Fabiana Piacenza pour son appel téléphonique. Vous avez entendu les chroniques de José Lillo et Olivier Motta. Merci de nous avoir écoutés. À la réalisation, c'était Léonard Blanc et Benno Sorex. La semaine prochaine, c'est les vacances. Rendez-vous le 19 avril pour un épisode situé entre acrobatie, danse et sport. Qu'est-ce qui différencie un geste sportif d'un geste artistique ? En attendant d'avoir la réponse, je vous souhaite à toutes et tous de basculer agréablement dans le week-end. Bisous.